minutes 4 dans l'émission Libre Débat. Aujourd'hui, on va dédier l'émission à la droit à l'avortement en Amérique latine. On va d'abord vous faire un petit résumé de la lutte de l'Argentine. Et comme certains parmi vous ils le savent, depuis le 29 décembre 2020, l'avortement en Argentine est loi. Donc, on va voir comment ce processus il s'est construit avec l'intervention d'une camarade qui est en ce moment en Normandie, mais qui va nous rejoindre par téléphone. Il va nous raconter un peu l'historique de la construction de la lutte pour l'avortement en Argentine. Et après, elle a fait surtout des entretiens à des militantes argentines dans la campagne pour les droits à l'avortement, qu'ils vont nous raconter aussi leur point de vue. Et par la suite, on va passer deux informations sur Venezuela et Honduras, parce que il y a eu certaines répressions encore plus fortes contre les droits aux femmes, notamment pour la question de l'avortement. Et ici dans les studios, on a deux camarades aussi de Chili et du Brésil qui vont dans une deuxième partie nous raconter comment il est la situation pour les droits à l'avortement dans leur pays. Parce que si bien l'Argentine elle a gagné les droits à l'avortement, on pense que ça ne s'arrête pas. La lutte, il continue. Ce qu'on veut ouvrir, c'est la porte à que les droits pour l'avortement ils soient loi dans toute l'Amérique latine. Il n'y a que Cuba qui avait les droits à l'avortement depuis la Révolution, et Uruguay depuis le 2012. Maintenant, l'Argentine, il avait aussi les DF, seulement Mexico DF, qui a gagné pour la ville, mais maintenant on veut vraiment l'élargir à toute l'Amérique latine. Donc on va entendre notre camarade Pili qui va nous faire un petit historique sur cette lutte en Argentine.
Des lois viennent de passer par le Sénat argentin le 30 décembre 2020, mais voyons un peu la généalogie de cette loi et de la campagne pour la légalisation de l'avortement en Argentine. Pendant des décennies, les féministes argentines ont débattu de la question de l'avortement et des conséquences de son statut juridique sur la vie et la santé des femmes. La campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit c'est une alliance fédérale large et diversifiée qui articule et récupère une partie de l'histoire et des luttes développées en Argentine. Il trouve ses graines dans les rencontres nationales des femmes tenues en Rosario 2003 et aussi à la rencontre nationale des femmes 2004 à Mendoza. Cette rencontre nationale, c'est une réunion féministe qui se tient chaque année en Argentine depuis 1986. C'est une réunion autoconvoquée, démocratique, fédérale, horizontale, et il se caractérise aussi pour les types d'organisation en assemblée. Et c'est une expérience sans précédent dans le monde où femmes, lesbiennes, travestis et personnes trans se réunissent pendant 3 jours pour se former, participer à des ateliers et débattre. Donc dans ce contexte, commence à se créer, si vous voulez, le projet de loi de la légalisation de l'avortement en Argentine. Le projet de loi s'appelle Dora Koledeschi en hommage à une féministe avocate qui est une de les premières à créer et commence à écrire ce projet de loi. C'est une femme qui est exilée en France pendant la dictature militaire et de retour en Argentine, il a commencé à s'organiser avec des autres femmes pour créer cette loi. Le projet de la campagne pour la légalisation de l'avortement en Argentine, il était présenté à 8 reprises au Parlement argentin, mais malheureusement, il n'a pas eu lieu de traitement, sauf l'année 2018, qu'il était traité pour les députés et approuvé pour les chambres des députés argentins, mais pas pour les sénats. Mais il est accompagné aussi pour 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue pour accompagner cette prochette. Et c'était la Marea Verde qui accompagnait. On peut dire que 2 ans plus tard, cette approche, si on peut dire, parce que là, c'était un nouveau projet qui s'est présenté. Il était traité et il a passé. Donc, il a eu des différentes négociations, lobbies, et aussi des campagnes de conscientisation et des différents outils pour que la société accompagne cette des lois cette fois-là. Donc, on va écouter Chani de la campagne pour la légalisation de l'avortement qui nous explique pourquoi cette fois la loi elle a passé.
Donc, on vient écouter un petit historique sur la naissance de l'Assemblée nationale des femmes en Argentine, qui a beaucoup aidé l'organisation de la lutte pour l'avortement. Et après, on va écouter, comme elle avait annoncé, Yanis. Mais d'abord, on va écouter Rebecca Lane. Rebecca Lane, c'est une artiste, chanteuse, sociologue de Guatemala, très engagée pour la lutte des femmes et des sciences féministes. Elle est aussi engagée pour la lutte à l'avortement. Donc, on va écouter Rebecca Lane. Tu cintura sin censuras.
Tu cintura. por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
Désolé, vous avez eu droit aussi à la fin de la chanson avec moi. On est toujours à Radio Galère 88.4 dans la mission consacrée à l'avortement en Amérique latine. Maintenant, on va passer des audios des camarades en Argentine qui ont mené la lutte et la bagarre pour les droits à l'avortement et qui sont reçus à la voix. Donc, on va écouter d'abord Viviana, que c'est une travailleuse de la santé en Argentine, engagée dans le réseau des professionnels aussi pour les droits à l'avortement. Après, on va écouter Jenny, qui va nous parler au nom de la campagne pour les droits à l'avortement en Argentine. Et finalement, on va écouter un audio de Yanis, qui va clôturer les entretiens que notre camarade qui se trouve en Normandie, qui on va le voir en direct tout de suite, il a récolté pour nous. Donc, on les laisse la parole à notre camarade de l'Argentine.
Cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Salut tout le monde.
À todos.
Ici Viviana, une travailleuse de la santé, travailleuse de terrain, engagée dans les réseaux des professionnels pour que le droit à l'avortement puisse être aujourd'hui un droit pour toutes les femmes. Il me semble aujourd'hui que vraiment le chemin pris par les réseaux sociaux et la marée verte a joué un rôle majeur dans le fait de porter cette question dans tous les piliers de l'organisation sociale, principalement l'organisation des quartiers, celle des syndicats. Les syndicats qu'il reste aujourd'hui beaucoup à déconstruire pour pouvoir reconstruire avec la prise en compte du féminisme, la prise en compte des programmes de genre et de la santé globale. J'appartiens à un lieu, à une institution dans laquelle il y a encore une bureaucratie du machisme qu'il faut démanteler, mais la marée verte est intervenue dans ces institutions, dans les syndicats. Et grâce à elle, grâce au réseau de professionnels, nous avons pu nous organiser et ainsi mettre cette question au premier plan et amener ces débats dans des lieux fortement sexistes comme un syndicat. L'importance de l'organisation des femmes dans cette lutte pour le droit à l'avortement a permis aussi d'aborder d'autres questions comme la précarité du travail, la précarité de la vie et de penser la santé comme une santé totalement différente globale. Cela s'est accompagné de la lutte pour l'avortement dont on peut dire aujourd'hui qu'il est une loi. Il reste beaucoup à faire. La lutte pour l'emploi et contre la précarité. La stabilité de l'emploi a beaucoup à voir avec cette organisation qu'on a développée avec les réseaux et les professionnels engagés. Les programmes du ministère de la Santé n'ont pas encore été retirés des institutions. Il y a encore beaucoup de choses à défendre et je pense que ce sera possible en luttant et en se battant pour ce qu'il nous reste à gagner. Salut tout le monde.
Les queremos enviar un saludo de parte de acá las compas.
Beso grande, grosa.
Vamos por Argentina y por toda Latinoamérica. Aborto legal en todo el Cono Sur y Centroamérica y
avortement légal partout et jusqu'au Kurdistan.
Besos negra.
Donc, on va écouter maintenant à une des porte-paroles sur la campagne à l'avortement en Argentine.
Grâce à la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit, on considère que c'est juste à la fin de 2020 que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse est enfin réalisée. C'est grâce à une politique obtenue après 15 ans de campagne en Argentine. Campagne profonde mentalement parce que certaines questions se sont conjuguées à une accumulation politique qui s'est concrétisée après un débat intense en 2018 où la loi ne pouvait toujours pas être promulguée. 2018 nous a permis d'ouvrir de nouveaux scénarios ou canaux de débat, de nouveaux espaces pour le plaidoyer. Et dans ce sens, les élections de 2019 ont eu beaucoup à faire sur cette question, parce que les pourcentages des élections portaient aussi sur le positionnement ou non des élus sur l'interruption volontaire de grossesse, avec la croissance de l'assentiment social, avec aussi la décriminalisation sociale que nous générions, grâce au militantisme, au réseau de secouristes, au réseau de professionnels de santé, au réseau académique dans les espaces défendant les droits de l'homme. À travers tout ça, il y a une accumulation de pression sur les partis politiques et les organisations sociales qui font partie de ces politiciens qui soutiennent la loi d'interruption volontaire de grossesse. Aussi parce qu'il y a une croissance et un débat sur les politiques qui permettent la perspective de genre au sein de l'État. Débat qui commence justement à éradiquer tous les types de discrimination et de violence de genre. Bien sûr, les lois sont écrites, mais il faut après les rendre concrètes. Et ça, ce sont fondamentalement les défis liés à l'évolution de la société en Argentine, par rapport au féminisme, par rapport aux revendications du mouvement des femmes qui le déterminent. Bien sûr, les défis sont énormes. Une fois que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse a été adoptée, surtout en ce qui concerne la possibilité de mettre en pratique des droits au sein du système de santé. D'abord parce qu'il y a une question de préjugés, une question de représentation sociale concernant le rôle des femmes, des filles, des adolescentes. Et ces préjugés persistent, malgré le fait qu'il existe un grand mouvement féministe dans notre pays, en Amérique latine aussi. Et ce mouvement a fait de grands progrès, on a fait d'énormes pas en avant au niveau mondial. On ne lutte pas seulement pour l'égalité contre les discriminations. Nous luttons contre la violence de genre. Il y a beaucoup de questions qui ont trait aux préjugés profondément ancrés concernant les femmes, comme le respect d'égal à égal, le rôle de la maternité, etc., qui restent encore dans l'imaginaire collectif. Donc, en résumé, il nous semble qu'il faut continuer à briser ce type de structure pour que les lois pour l'égalité des sexes, de manière générale, pas seulement dans le cadre des droits sociaux et civils de la santé, puissent être mis en place. Mais ensuite, un autre des défis que nous avons, c'est qu'au niveau politique et au niveau de la participation politique, il y ait une reconnaissance. Imposer comme le fait de ne pas concevoir une démocratie qui permette les inégalités, ne pas concevoir une démocratie qui permettent une représentation politique inégale des femmes, des diversités. Les défis, c'est d'arrêter cette possibilité en continuant d'être entourés. Donc par rapport à ça, il y a aussi la question de savoir comment on va affronter les obstacles conservateurs, donner à la démocratie une plus grande démocratie, une plus grande participation. Ensuite, certaines questions liées au système budgétaire constituent un obstacle de taille, puisque la première chose qui est supprimée concerne les droits sexuels et reproductifs ou les libertés. Mais ou encore la possibilité d'accès à la formation ou à la formation continue. Mais c'est donc aussi quelque chose à prendre en compte parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie très libérale ou très progressiste s'il n'y a pas des conditions de sécurité et s'il n'y a pas de budget. C'est aussi évidemment une limitation. Ce qui d'ailleurs, je pense, reste aussi quelque chose de problématique dans beaucoup de pays où l'avortement est une loi. Donc dans ce sens, les réductions budgétaires sont un problème. Et voilà, il reste encore beaucoup d'obstacles qui doivent être supprimés. Il faut aussi continuer à travailler pour que lorsque ces lois seront mises en œuvre, elles disposent de budget et de formation nécessaires pour le personnel soignant. En ce sens, il est très important qu'il y ait un suivi par la société civile, mais aussi des lieux ou des espaces où l'État lui-même contrôle la possibilité que ça soit réalisé. Et dans le cadre de la loi, tant les travailleurs de la santé que l'espace éducatif au sein du ministère de l'Éducation doivent s'assurer qu'une éducation sexuelle complète puisse être donnée et que toutes les politiques visent à promouvoir les droits sexuels et reproductifs en tenant compte aussi du contenu de l'avortement légal. Parce que justement, il semble que la législation, la légalisation de l'avortement en Uruguay, par exemple, qui a été le fer de lance avec les processus d'expansion démocratique qu'a connu l'Amérique latine, et fondamentalement tout ce qui a trait à la participation des mouvements féminins, féministes, LGBT dans notre pays, et de nombreux débats ont lieu. Et c'est un dialogue qui est nécessaire entre les régions au sein de l'Amérique latine, mais aussi au niveau mondial, que tous les espaces du féminisme transnational aussi. Parce que ce sont les constructions qui sont enracinées dans ce féminisme internationaliste que nous continuons à construire. Et nous continuons à lutter pour que cette construction devienne aussi de plus en plus profonde. Et que les pays posent les bases pour que tout ça élargisse les droits, et surtout le droit à l'interruption légale de grossesse. On travaille également sur la mise en œuvre dans notre pays, la mise en œuvre concrète de ce droit dans notre pays, mais on accompagne également le processus au Chili et au Mexique, et ainsi que dans tous les endroits où cette possibilité existe, en essayant de combler les écarts d'inégalité, tant symboliques que matériels, pour les femmes et pour la communauté LGBTI. Dans ce sens, nous nous sentons responsables et on a la responsabilité et la possibilité, la nécessité de continuer à soutenir ces processus partout. Nous avons vu ce qui se passe en Pologne. Et en ce sens, on pense aussi qu'on a besoin d'États plus forts sur ces questions, d'États avec une population plus robuste pour les défendre afin que nos droits soient définitivement consacrés et garantis. Donc, un grand salut à toutes les camarades et à tous les camarades qui continuent à militer pour plus de démocratie, mais aussi de politique avec égalité des filles, aussi continuer au sein des mouvements féministes qui est très important dans le pays.
On va continuer à écouter notre camarade de l'Argentine, Yanis. Un grand merci pour la traduction en simultané de notre copine dans les studios.
Hey! Hola a todas,
bonjour à tous et à toutes, je suis Ayani, je suis actrice de la campagne pour le droit à l'avortement légal, sûr et gratuit en Argentine. Je crois que, enfin, nous croyons l'avoir conquis dans les derniers jours de l'année 2020 parce qu'on a un héritage de nombreuses luttes du féminisme qui reprennent beaucoup d'élan depuis le retour de la démocratie en Argentine. Avec les mères, les grands-mères, la commission pour le droit à l'avortement, avec les rencontres nationales, aujourd'hui plus plurinationales de femmes et des autonomes accompagnant le mouvement No Una Menos, en assumant les luttes féministes, avec les meufs qui dénoncent les abus et les violences, avec les escrachas, grâce à la diversité qui compose notre féminisme et qui s'est visibilisée dans les rues à partir de 2005 en masse. C'est un féminisme avec des revendications de classe, totalement populaires, y compris dans les organisations en mixité. Inclut les féminismes dans leur revendication de la lutte pour la société plus juste et plus égalitaire. Et ça a été accompagné surtout depuis 2018.
Las organizaciones mixtas incluso hoy en Argentina toman el feminismo como parte de sus banderas de lucha.
Donc, ouais, ça a été accompagné surtout en 2018 avec une lutte politique et une reconnaissance de la part des gouvernements, de l'État, de la nécessité que ce problème social se résolve du point de vue de la santé publique. De plus, ça englobe les droits humains et la justice sociale. Donc, je crois que cette alliance a fait qu'il a été conquis et nous a permis d'obtenir la loi en un an. Ce qui a été également très controversé pour le monde, parce que c'était une pandémie, mais parce que le scénario ouvre la possibilité que toute personne ayant des capacités puisse décider volontairement de ce qu'elle veut faire en cas de maternité ou de non-maternité. Donc, ça veut dire qu'elle ouvre à un scénario qui permet d'être un peu plus général, un scénario qui permet, face à la possibilité que ça se répande. Cela devient contagieux et il y aura des possibilités. La possibilité, c'est possible. Un scénario où le féminisme apparaît en train de conquérir des droits dans un continent où, en général, il tend à reculer ce droit. Et où on est dans un moment où il y a beaucoup de faim, on est sur la défensive, on est en résistance, où là, enfin, le possible apparaît. Non pas que le combat rende possible ce qui semble être un peu le scénario que nous éveillons envers les autres féminismes. En outre, en termes d'obstacles, et nous avons voulu que ce droit soit un droit fondamental. Après, en ce qui concerne les obstacles, on nous a soutenus, on voulait faire que cet avortement soit loi, y compris que la loi présentée par l'exécutif. Mais il y a un article en particulier, et c'est ce qui a fait le plus de bruit durant notre parcours. Nous savons que l'objection de conscience est un obstacle concret à l'accès au droit, surtout dans les lieux du territoire, qui ne sont pas des villes où les professionnels et les églises au pluriel ont une autre incidence, et ça nous inquiète. Depuis le 24 janvier en Argentine, on peut avoir accès à l'IVG, donc il est encore très tôt, mais on a déjà des échos comme à Chaco, une région où cette loi est anticonstitutionnelle. Nous avons des commentaires de médecins qui disent que dans certaines cliniques privées, ils les font tous signer comme des objecteurs de conscience. Mais on a des jours maintenant où la loi existe. Donc, si nous devons envoyer un message, ce que nous pouvons dire en Argentine, c'est que la lutte n'est pas magique, c'était pas magique, c'était des organisations, beaucoup de réunions, beaucoup d'assemblées, beaucoup de réunions, beaucoup d'organismes, d'organisations, beaucoup de rues, beaucoup d'accompagnement, et ça vaut la peine de s'organiser, que le collectif transforme les vies, qu'il conquiert des droits et que le combat est utile. Ça vaut la peine de s'organiser parce que le collectif transforme les vies. Ça vaut la peine de se battre. Et on se bat aujourd'hui pour le droit à l'avortement parce qu'il est réel dans chaque partie de notre pays et du continent et du monde. Parce que si encore une fois,
que le collectif transforme vidas, conquista derechos, y eso, que luchar sirve, que
si encore une fois, dans la carte du monde, nous n'avons pas le droit de volontairement décider de nos corps, nous n'avons pas la souveraineté, il y a encore beaucoup de recul que nous allons subir, beaucoup de violence, et spécialement de violence contre nous. Alors, il faut toujours combattre. Siempre la lucha.
Derecho a lo voluntario, a decidir sobre nuestros cuerpos, no tenemos soberanía.
Que le collectif transforme les vies, ça conquiert les droits et la lutte sert. Aujourd'hui, on lutte pour le droit à l'avortement pour qu'il soit réel dans quelques coins de notre pays et du continent et du monde. que le collectif transforme les vies, ça conquiert les droits et la lutte sert. Aujourd'hui, on lutte pour le droit à l'avortement, pour qu'il soit réel. Dans quelques coins de notre pays et du continent et du monde, parce que on voit le monde encore, la majorité du monde, qu'on n'a toujours pas le droit, qu'il est important de pouvoir décider sur notre corps. On n'a pas la souveraineté, ils sont encore beaucoup, elles sont nombreuses les oppressions qui nous traversent, elles sont beaucoup les intersectionnalités pour lesquelles on a lutté et traversé, mais c'est encore beaucoup de violence sur nous et donc il faut continuer à lutter.
Bon. C'est bon message qui nous envoie les camarades de l'Argentine, que lutter ça vaut le coup, que lutter ça rend les choses possibles dans un contexte, comme on l'a dit, avec la pandémie, avec les crises générées, avec plein de contrôles de l'État sur nos vies. Donc avoir fini l'année 2021 avec ces belles luttes qui nous donne la pêche pour continuer et pour continuer à nous battre pour nos droits dans tous les coins du monde. On va faire une petite pause musicale avec Biffet. Et c'est un duo argentin qui vient de se séparer le mois dernier, mais qu'on l'aime toujours, et qui a fait ses chansons pour la lutte des droits de l'avortement, pour qu'il puisse se passer en manif et l'échouer dans les manifestations dans la rue face au Parlement. Biffet. Donc, Rosa.
Googleen socorristas en red.org y pasen el dato.
Mejor que no las viva y ya, o que decida el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene
a mano su teléfono para ayudar. Rosa, Rosa, amiga, revuelta, despierta de noche, se pide decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, Rosa, amiga, revuelta, despierta de noche, se pide decisión. La manada me manda, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Oh, 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 oh.
personne devait faire. Salut, ça va?
Salut, ça va et toi?
Ça va, notre camarade depuis la Normandie qui nous rejoint.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, salut.
Salut Pili.
Il y a des gens dans les studios ici.
Oui, j'entends.
Qui ont hâte de t'écouter. Moi aussi d'ailleurs.
Bon, moi aussi, parce que là, ce moment est historique pour l'Argentine. Et aussi pour, je pense que pour l'humanité, et pour le mouvement féministe aussi. Donc ça a été la fin de l'année 2020, c'était vraiment des journées historiques. Donc il faut raconter comment est-ce qu'ils sont arrivés là, et comment on est arrivé quand même, parce que là nous on a aussi, on était engagés quand on habitait en Argentine, pour cette loi, non? Donc,
Oui, on était... Bon, nous, on a quitté l'Argentine, mais on a soutenu quand même. Après, je vais te demander justement, on a soutenu de loin comme on pouvait.
Oui, il y a eu des soutiens, il y a eu des soutiens de différents pays de l'Europe. D'ailleurs, il y a eu aussi à Paris, donc le moment féministe des femmes latino-américaines qui s'organise à Paris, mais aussi il y a eu en Barcelone, aussi dans différents pays, vraiment en Allemagne. Donc la journée, la loi, il a passé, on peut dire qu'elle a passé le 30 décembre, parce que c'était le 29 au 30, donc ils sont passés toute la nuit dehors. Dans la rue, donc et nous d'ici on a fait des différents, on a fait les pañuelazo. C'est le pañuelazo, c'est avec notre drapeau, c'est un drapeau de couleur verte, donc c'est le signe de la campagne pour la légalisation de l'avortement. Donc c'est un signe que l'on utilise à partout dans tout le monde, donc et maintenant on utilise aussi sa façon de dire je suis pour la légalisation de l'avortement en Amérique latine et aussi dans le monde. Donc là, il y a eu des comités de soutien aussi, de manière internationale.
Oui, justement, je voulais revenir sur cette histoire des foulards qui est pour nous, les Argentines. On ne peut pas parler un langage inclusif en français, parce qu'en espagnol, on peut dire Argentinas, Argentines.
Oui.
Donc en français, c'est plus compliqué, mais l'essence est toujours la même. Les Argentines, on est là. Et donc sur cette histoire justement des foulards qui est assez marquant, parce que comme tu dis, la campagne il a fait de cette foulard un signe de lutte, que c'est pas la première fois qu'un foulard c'est un signe de lutte, mais racontez pourquoi on a repris ces signes de mer des disparus et pourquoi la couleur verte. Tout le monde se pose la question, Pili.
Oui, waouh, c'est difficile. Non, les couleurs vertes pour nous, c'est l'espoir. Et les couleurs vertes aussi, ça donne la vie. Donc là, c'était un petit peu de sortir un peu de ces faux débats qu'il avait en Argentine, que l'avortement, c'était pas la vie. Mais c'est justement, c'était un symbole de la vie de la femme par rapport à la quantité de morts qu'il a eu pour des avortements clandestins. Donc, ces foulards, c'est un symbole aussi de l'espoir. Donc, parce que c'est les couleurs vertes pour notre culture, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Donc et ils sont apparus depuis 2005 dans les rencontres nationales des femmes. Donc les projets de loi aussi, c'était pratiquement 2004 d'ailleurs. Ils sont apparus cet type de foulard pour se distinguer, parce que si on peut parler de la rencontre nationale des femmes, c'était une rencontre qui s'est faite depuis les années 80 en Argentine, mais qu'il avait beaucoup de femmes de différents signes politiques. D'ailleurs, il avait aussi les femmes de l'Église qui sont participées à la rencontre nationale des femmes. Donc, et que on sait bien que l'Église catholique et les autres églises aussi, c'était un contre de l'avortement. Donc, c'était une façon de se distinguer des autres.
Oui, oui, d'ailleurs, en parlant de l'Église catholique, je ne sais pas si tu te rappelles quand on s'est connus, ça fait quelques années déjà, justement par rapport à un article qui est sorti sur l'avortement et les papes argentins.
Oui.
C'est une belle victoire aussi parce que les représentants de l'Église catholique, moi je l'appelle par son nom de famille, je refuse de l'appeler par les noms donnés par l'Église, Bergoglio, il a vraiment que ça soit gagné. Les droits à l'avortement dans les pays qui viennent les papes, c'est une belle victoire, je trouve. C'est un bel défi. Et justement, de là, ils sont découlés aussi les foulards orange pour la division de l'Église et de l'État.
Oui,
j'ai entendu, j'étais plus là, mais qui a eu aussi des démissions en masse de l'Église catholique en Argentine, justement, après que la première fois, il avait passé à la Chambre des députés, mais il n'a pas passé au Sénat, n'est-ce pas?
Oui, ben, on peut raconter que nous, on vient d'une culture très, très catholique, donc nous, on était colonisés pour les Espagnols, donc qui nous sont colonisés à force de la violence aussi, de la parole, de la Bible. Donc nous, on était, c'était pas facile pour nous, pour notre culture, et aussi, ouais, si bien il y a un côté culturel aussi, c'est très, très important. Au niveau religieux. Donc là, une des choses que nous on demande aussi, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Pas seulement pour l'Argentine, sinon dans différents pays, non? De l'Amérique latine. Donc c'est un combat encore. Et aussi, bon, mais là, notre foulard, que c'est, oui, c'est vrai, c'est le foulard de couleur rouge, et rouge, de couleur orange, pour signaler aussi la séparation de l'Église et de l'État. Nous, on pensait, au moment que Bergoglio il était élu comme pape au niveau mondial, pour nous, c'était, on a pensé que c'était difficile pour nous, il a eu un recul au niveau société, sociétal, mais bon, on a avancé quand même. Il a eu beaucoup des éléments. On a écouté tout à l'heure les audios de notre camarade d'Argentine qui sont expliqués un petit peu pourquoi cette fois-là on a eu la possibilité d'arriver à une loi qui en France s'est fait depuis les années 1975. Donc là nous on a beaucoup en retard, non? Et par rapport à ici, à différents aussi pays dans l'Europe, non?
Oui, mais après un peu, j'ai parlé aussi avec des gens, ces disparités, parce que quand même on a la loi depuis maintenant, je pense que 10 ans ou un petit peu plus, de choisir notre chambre, même dans l'état civil, que c'est une loi très progressiste
depuis
au niveau international,
oui.
Parce qu'il faut dire qu'en Argentine, quand on veut changer de chambre dans ses pièces d'identité, il ne faut pas s'opérer, il ne faut pas faire un parcours psychiatrique.
Oui,
et
oui.
D'un autre côté, oui. La droit de l'avortement, il ne passait pas. La gestion du corps des personnes gestantes, soit femmes ou trans, il était toujours sur la main de l'État.
Oui, et aussi, il a passé aussi, ça fait des années, depuis 10 ans, qu'il a passé aussi la loi 11, ça va venir prochainement, 11 ans, de la loi aussi del matrimonio igualitario, c'est-à-dire de l'alliance...
Oui, pour le mariage pour tous.
Oui, voilà, c'est le mariage pour tous. Donc oui, d'un côté, il a eu des avances, mais de l'autre côté, on était obligés à se battre pour y arriver, mais on arrivait quand même. Mais on peut dire que c'est une société patriarcale. C'est le système est patriarcal, mais notre société elle est complètement patriarcale. Donc nous, les femmes, on est obligés à se battre tout le temps pour y arriver à être en parité, même pas des fois. Donc on n'arrive pas. Mais je pense que c'est une bonne cette expérience de la loi en Argentine, je pense que c'est une expérience d'accumulation, comme ils ont dit les camarades, d'accumulation depuis des années et depuis une histoire de participation et de lutte à un moment des femmes qu'à certains moments, il est devenu féministe, parce qu'on peut expliquer que pas tout le moment des femmes en Argentine sont des féministes. Non, mais il y a... après, on peut parler de différents féminismes aussi, de l'Amérique latine. mais c'est parce qu'il a quelques particularités quand même. Non.
Ouais, c'est moi je voulais revenir un peu sur cette histoire. Justement, nous, quand même, on est un pays qui s'est battu depuis la démocratie. On a continué à se battre. On s'est beaucoup battu, même pour l'incarcération des militaires, même quand les gouvernements qui étaient au pouvoir après ils les libéraient, mais quand même, on a eu le courage de sortir dans la rue, justement, cette expérience qui, quand même, il a été beaucoup impulsé par des femmes. Il ne faut pas oublier que les mères des Place de Mai, les grand-mères, c'était des femmes qui s'évadaient pour l'apparition de leur fils. Mais comme tu dis aussi, moi, j'ai remarqué, parce que dans les 2014, je suis allée en Argentine, le moment pour l'avortement, il n'était pas si grand que maintenant. Donc, il a eu un déclic, quand même, avec les moments où il a expliqué dans l'audio. Pas une de plus dans les 2015 ou 2017, n'est-ce pas?
Oui, il y a eu des différents déclics. C'était le moment de, on peut dire que la histoire, il va commencer dans le moment de la rencontre nationale des femmes, qui maintenant c'est la rencontre plurinationale des femmes. Et, mais aussi, il va avoir dans notre histoire et quelque chose qui va basculer sur l'accumulation politique et l'accumulation historique, que ça va être le moment ni una menos. Hein, c'est le moment que elle a un peu pensé en parallèle à États-Unis, que c'est le MeToo, mais c'est pas pareil, parce que les Nunamenos, c'est justement la dénonciation de différentes femmes battues et mortes aussi et pour la violence machiste. Donc il y a encore des mobilisations, il y a beaucoup de femmes qui sont sorties dans la rue depuis les années 2014 et 2015, hein, qui sont créées ces mouvements, et justement comme une forme de dénonciation. Il y a aussi la révolution de las pibas, on dit las pibas, si on peut dire, c'est la révolution des filles, mais piba, c'est une façon de parler, comme on dit dans les quartiers, non? Fille, mais quelque chose un petit peu dans l'argot.
Oui, des meufs, des chameufs.
Oui, des meufs, mais même pas. Donc là, on n'a pas une traduction de ça, mais la révolution de las pibas, parce que depuis 2018, on pourrait dire qu'on a fait, il avait passé la loi au Sénat, il avait passé aux députés, la Chambre des députés argentins, mais qui n'a pas passé 2018. Ils sont descendus dans la rue des filles qui jamais, des femmes qui sont jamais manifestées. Donc il avait 1 million de personnes qui sont étaient dans la rue. Moi j'étais justement en 2018, j'étais en Argentine en ce moment. Donc je pense qu'il a eu autant de personnes comme le moment du retour de la démocratie depuis la dictature. Donc on peut faire le parallèle, parce que là je participais depuis la récupération de la démocratie en Argentine. Il a eu beaucoup de manifestations et des choix et aussi des choix de participer aussi. Donc là, cette révolution, on dit que c'est des filles, même pas des personnes de même pas des 20 ans. Donc c'était les petites-filles de la mère des Plaza de Mayo.
Oui, en plus, c'est quelque chose qui, moi, ça m'a beaucoup touchée, mais c'est parce que nous, on sait, on a toujours eu qui n'a pas eu une copine, on connaît quelqu'un, ou peut-être soi-même, qui a fait un avortement clandestin en Argentine. Et tout ça, c'était toujours un tabou, c'était toujours un secret. Et là, après les 2018, ça a libéré la parole. Donc, ça m'a plu parce que... Et au contraire, moi j'étais pas en Argentine, mais j'étais par texto avec mes amis. Je sais, mais vous êtes à la place du Congreso, que c'est à l'Assemblée nationale. Oui, vous allez gagner. Non, on va perdre, mais pas en silence. on va perdre et on va être là. Si ça passe là, nous, on continue et on va dénoncer qu'il n'est pas passé. Et quand même, maintenant, on parle. Maintenant, on les dit. Et maintenant, la parole s'est libérée. Il est sorti aussi un livre d'un pote à moi qui, pour la première fois, il a raconté justement que sa mère, elle est morte par un avortement. Et on parle d'une personne de 43 ans quand même. Hein.
Oui, je pense que la chose que ça a passé, non, quand je quittais l'Argentine, c'était en 2013, donc fin de 2013, 2014, donc et ben, nous on faisait des activités dans différentes places et comme une forme de visibilisation, non, de montrer et de présenter aussi, demander des signatures pour présenter les projets de loi. Donc, j'étais plusieurs fois au Congrès aussi, au Parlement argentin, en accompagnement de la loi. Mais il n'avait pas vraiment cette accumulation. Donc, il avait un déclic depuis, comme je dis, la révolution de cet groupe de filles. Donc, qui sont portées cette besoin en première personne, mais aussi, c'était les filles aussi, tu sais, sont d'une génération que ça pourrait être, c'est mes nièces, par exemple, qui sont participées, donc qui sont des personnes à des 20 ans, qui sont aussi, comme ils sautaient un peu, ils sont sautés les tabous, et donc ils sont été aussi dans les masses médias, ils ont utilisé les réseaux sociaux qu'avant on ne s'utilisait pas trop, mais ils ont utilisé aussi même la télé, donc ils sont passés partout. Ouais. Donc on espère bien que ça va passer aussi dans différents pays de l'Amérique latine.
C'est ça justement les voûtes, et c'est ça un peu les voûtes qu'on avait pensé, Pili elle a pensé l'émission avec moi. Merci Pili en plus pour tous les bons reportages que tu as réussi à nous savoir, et les voûtes c'était aussi justement dans la demi-heure qui nous restait de pouvoir laisser un peu une aperture au reste de Latin Amérique. Donc parler d'Honduras, qu'on a un enregistrement, on a enregistré Pili parce que comme on est loin en cas où il y a eu des problèmes techniques, et après moi je voulais parler aussi d'un cas de Venezuela, et après on a notre camarade Raisa Eli qui attend dans les studios pour discuter un peu aujourd'hui. Le plateau, il est vraiment Amérique du Sud-Sud. Il nous manque des pays, malheureusement, mais la prochaine fois, peut-être, on va élargir. Quand la lutte va s'élargir, on va élargir aussi le plateau avec des camarades qui viennent nous raconter leurs histoires. Et je pense que c'est bien que ce soit nous, les latino-américaines, les natinx, qu'on parle de notre histoire et de notre victoire, non?
Oui, bien sûr, et en plus, c'était... Oui, moi, je pense que c'est intéressant aussi, même avec notre accent, que c'est important aussi de raconter l'histoire en première personne. Donc, on n'est pas besoin d'être interprété pour un autre. Et, c'est vraiment quelque chose que nous, on peut utiliser notre propre voix pour raconter, et même si on était aussi actrice de notre histoire. Donc, pour moi, c'était vraiment... j'ai pleuré, vraiment. Parce que, oui, c'était des années, on a beaucoup des années, on a utilisé même notre argent en poche, notre propre ressource économique pour y arriver. Et je le sais pour mes collègues aussi. Et je ne sais pas, on s'est investi beaucoup. Et c'était tout, comme on dit, nous, à poumon. Donc, c'était de notre propre ressource. Donc, des fois, quand tu écoutes des choses, qu'il y a des féministes qui se sont fait financer par, je ne sais pas, des organismes internationaux, ce n'est pas vrai. Pour nous, non. Et en Argentine, il y a un mouvement féministe anticapitaliste qui se bat encore contre le système et aussi contre le patriarcal.
Oui, c'est surtout ça que nous, on s'est battu, parce que les avortements
on connaît les personnes de classe moyenne, les personnes de classe haute, ils se font avorter dans des cliniques depuis toujours en Argentine. Oui. Mais nous, on a vu en plus de l'engagement qu'on peut avoir collectif ou personnel aussi, toute la souffrance qu'on a eue pour notre proche, certains qui sont plus là, parce que ils sont soumis à un avortement clandestin, des souffrances que ça reste, qui ont vécu depuis très petit quand même.
Oui, et c'est, on peut dire que c'est une question d'injustice sociale. Donc, que la loi il vient de passer et que les femmes ils ont le droit d'y aller à l'hôpital, et c'est une question de justice sociale. Donc, bon, je salue les camarades qui sont dans là avec toi. Okay. Et merci beaucoup pour l'invitation.
Non, t'es pas invitée, t'es un des créatrices de cet espace. Oui, toi, sais. Ça n'aurait pas existé.
C'est un petit peu loin.
Même bon, si t'es pas en présentiel, c'est comme non, ça c'est que vrai. Je les sens, en tout cas.
Oui. Bon, on a le couvre-fou maintenant.
Bon,
prochainement, je serai en Marseille. Hein.
Ok, on t'attend avec plaisir, Pili. Et donc, on va continuer avec les camarades.
Allez,
et merci.
Merci à vous.
À bientôt. Ciao.
Allez, merci. La lutte continue. Allez, ciao.
Ciao. Maintenant, on va écouter l'enregistrement justement qu'il a fait Pili sur Honduras. Et après, je vais vous raconter un peu l'histoire de Vanessa Rosales.
Les congrès argentins légalisaient l'interruption volontaire de grossesse. Et c'était une décision historique et il a basculé forcément sur les autres pays de l'Amérique latine. Et c'était le cas de l'Honduras, qui, malheureusement, il a, depuis le 21 janvier 2021, il a passé au Parlement une procédure accélérée, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle, qui est interdit complètement, c'est-à-dire c'est une interdiction totale de l'interruption volontaire de la grossesse au niveau constitutionnel. Mais c'est pas que, sinon aussi il a eu l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe. Mais c'est pas quelque chose surprenant par rapport à l'Honduras. Si on pense que c'est un pays qui depuis les coupes d'État de 2009 et toutes les situations de violence et des regrets au niveau droit humain, c'est pas une surprise. Et aussi, l'Honduras, c'est un pays qui, depuis les coupes d'État de 2009, il a essayé plusieurs fois de retourner à une vie démocratique sans succès. Donc, il a eu aussi des différentes élections présidentielles, mais qui confirmaient un peu aussi les partis politiques qui accompagnaient les coupes d'État de 2009. Donc, c'est un pays complètement violent, et c'est un pays que déjà depuis la mort de différentes militantes politiques, écologistes, féministes, il a du mal à se positionner de manière démocratique. Donc c'est le cas de notre compagnera Berta Cáceres, qui elle était morte en 2016. Donc la commission de interaméricaine des droits humains a qualifié ces pays comme un pays les plus hostiles et les plus dangereux pour la défense des droits de l'homme dans les continents. Donc on n'est pas surpris que les droits et l'accès à les droits des femmes, c'est l'un des premiers droits qui se stoppe au moment de regrets de la démocratie, non? Tout à l'heure, j'ai affirmé que Berta Cáceres, elle est morte, mais en fait, elle était assassinée Donc les auteurs matériels, et ils s'en étaient touchés, mais pas les auteurs intellectuels. Donc on peut dire qu'un pays qui ne respecte pas l'opposition et ses dirigeants politiques, écologistes, comme c'est le cas-là, et que ce n'est pas l'unique cas de Berta Cáceres, et, ça ne nous surprend pas qu'ils ne respectent pas et interdisent aussi de manière constitutionnelle l'accès à une vie plus épanouie au niveau des femmes. Et donc, aussi, on peut affirmer que depuis cette réforme constitutionnelle, et s'interdit aussi les cas de viol. Que c'est pas que l'Honduras, il y a des autres pays de l'Amérique latine que ils ont du mal à respecter aussi les droits en cas de viol. Ça a été le cas de Nicaragua. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour les femmes dans l'Amérique latine.
Donc après cette information encore de Pili sur l'Honduras, moi je voulais dire brièvement qu'en fait Vanessa Rosales, une enseignante de Venezuela, elle a été incarcérée le 12 octobre 2020 parce qu'elle accompagnait une fille de 13 ans qui a suivi des viols réitérés de la part de son voisin. Et donc, elle a suivi par la suite une grossesse qu'il ne voulait pas. Donc, sa mère l'a fait recours à Vanessa Rosales en Venezuela pour qu'il aide justement à pouvoir pratiquer une IVG. Parce que c'est une gamine qui s'est fait violer par un homme de 52 ans. Mais l'homme de 52 ans, comme d'habitude, il n'était pas emprisonné à cause de passer des preuves, même si la gamine était enceinte. Mais par contre, Vanessa Rosales, il a resté 22 jours incarcéré. Et après, avec une domiciliaire, donc il a continué l'emprisonnement chez elle. Et donc il y a eu une campagne qui s'est passée le mois dernier en soutien à elle. On n'a pas encore de nouvelles fraîches pour savoir l'état actuel, mais en tout cas on les voit, tout notre soutien et donc du coup de savoir qu'on va être avec elle si la loi y continue à les persécuter. Donc, on va écouter un petit morceau, toute petite, de Anita Tichou, du Chili, Antipatriarcat, pour donner la suite justement à notre camarade Ellie du Chili.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría.
A liberar.
Ellie qui va nous parler du Chili. On va s'amuser aussi avec chanter avec Tichou.
Salut à todos, todas y todes. Et je vais vous faire un tout petit petit rapport un peu de la situation de l'avortement au Chili. Et dans une première partie, je vais vous parler brièvement d'un peu de la chronologie du droit ou du non-droit, plutôt comment ça a évolué malheureusement et les droits des femmes, les droits notamment de l'avortement. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler aussi brièvement et sur les réseaux d'accompagnatrices et pour l'accès à l'avortement. Et du coup, c'est très intéressant à dire que dans la chronologie de l'avortement au Chili, bah, il a eu toujours une connaissance des peuples autochtones et des la connaissance du corps, la connaissance de l'avortement, de l'accouchement, bah, tout qui va autour du corps des femmes et qui a été petit à petit un peu amputé et mise à l'oubli et fortement condamnée. Et nous savons en héritage de l'Espagne, donc les premiers codes pénaux du Chili datent de 1874 et qu'il était pratiquement calqué avec les codes pénaux espagnols, dans lesquels se stipule clairement l'avortement comme un délit. Et ensuite, et c'est resté pendant un siècle, jusqu'à 1931, qu'il a eu une exception à l'intérieur du code pénal, et une exception à des fins thérapeutiques. D'accord, c'est en 1931, il faut bien retenir cette date, car c'est là les moments les plus progressistes du XXe siècle. Ensuite, on va aller jusqu'à les années 60, que c'est là le moment dans lequel le Chili il a eu des gros programmes de contraception et des programmes assez forts, assez répandus, des planifications familiales. Et ça s'appelait, pour l'anecdote, ça s'appelait le planification familiale et paternité responsable. D'accord, on voit bien que l'accent il est mis sur la paternité, toujours pas les droits des corps des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au courant des années 60, en 67, il a eu une réduction des critères pour l'accès à l'avortement thérapeutique. Chose qui était assez intéressante. Autrefois, il fallait avoir plusieurs spécialistes, chirurgiens, un corps médical qui détenait la parole et qui donnait l'accès au pas à l'IVG thérapeutique. Et à partir de 67, ça a été réduit. Du coup, on avait besoin seulement de 2 médecins. Et chose qui était assez intéressante. Ensuite, nous avons eu le coup d'État de 73, et avec la dictature de Pinochet, et avec un arrêt total des droits dans tout genre, et aussi des droits des femmes. Il y a Jaime Guzmán, le théoricien du néolibéralisme à la chilienne, en Chicago Boys, et c'est lui qui a conçu, qui a écrit, qui a réfléchi, pensé et mis en place la constitution chilienne de 1980, qui c'est celle qui nous attache encore et qui a tout verrouillé, vraiment tout verrouillé à niveau droit essentiel et qui on traîne encore et qui heureusement on va la changer. Bon, on verra, ça c'est un autre sujet. Et pour l'anecdote, Jaime Guzmán en 74, lorsqu'il est en train de travailler sur la constitution, et il dit et stipule clairement que la mère doit avoir son enfant même si celui-ci est anormal, non désiré, produit d'un viol ou encore même si l'effet de l'avoir déboucherait dans la mort de la mère. D'accord, ça c'est de la commission constitutionnelle en 74. Ceci n'a pas été retenu tel quel, mais quand même de la constitution de 80, et c'est écrit et clairement que la loi protège la vie de celui qui va naître. D'accord, autour de ça, et nous avons tout était verrouillé. Il y a une déclaration qui est assez pertinente pour qu'on se rende compte un peu de l'état d'esprit de l'époque. Et Olivio Merino, que c'était une des personnes qui a mené la dictature avec Pinochet et faisait partie de la junte de gouvernement qui a suivi le coup d'État suite au renversement de Salvador Allende. Et lui, il déclarait que la loi de Dieu dit ne pas tuer. Rien n'est plus antinaturel que punir de mort quiconque sans défense, mais qui est une personne et qui va naître. D'accord, c'est assez très intéressant parce que toutes ces idées qui sont véhiculées par les personnes de la junte militaire, les bourreaux et ceux qui nous ont fait subir pendant 18 ans une dictature atroce, extrêmement sanguinaire, dans laquelle le respect de la vie et bah, il n'est absolument pas de mise, il nous parle de ne pas tuer, que la loi de Dieu, etc. Et ensuite, on va arriver jusqu'à la fin de la dictature en 1989. Dans lesquels Pinochet, avant quitter le pouvoir, j'aime pas trop dire ça, parce qu'il était resté au pouvoir de l'armée quand même très 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 longtemps après. Mais au moment où on a cette transition à la démocratie, il s'est assuré quand même de l'inscrire enfin et mieux dans le code pénal et dans le code sanitaire, dans lesquels c'est écrit qu'il ne pourra pas être mené aucune action qui aura pour but provoquer un avortement. D'accord ? Ça, dans les deux, le code pénal et le code sanitaire. Et ceci, il a laissé clair avant de partir que tout était verrouillé et que même un avortement thérapeutique ne pouvait pas avoir lieu. Et courant des années 90, il a eu énormément d'initiatives pour changer la loi, avec une forte opposition de la droite historique, putschiste et conservatrice, mais aussi des ceux qui s'est situé à ce moment-là à gauche, et notamment la démocratie chrétienne. D'accord, il a une forte pression des cathos et des chrétiens de deux églises, hein, l'église évangélique et les cathos. Il faut dire que Chili, à partir des années 90, l'église chrétienne est non catholique. Et elle est extrêmement importante, elle est extrêmement nombreuse, elle a de plus nombreux adeptes, de plus en plus, et elles sont extrêmement conservateurs. Entre 90 et 2017, il a eu des initiatives, des essais, rien qui s'était passé. Il faut dire aussi qu'au Chili, c'est comme la plupart des autres pays de la région, et l'avortement, c'est une histoire de classe. Et les classes sociales sont encore très représentées dans l'accès ou n'est pas l'accès à l'avortement, même de manière clandestine. Et les classes hautes, ils vont dans des cliniques privées et nous avons aussi eu avoir des scandales dans lesquels il y a des dénonciations assez fortes, des taux énormément élevés des appendicites. D'accord, on sait très bien que les riches ils font des appendicites. Et bah, les pauvres, ils se débrouillent. Soit ils arrivent à la fin d'une grossesse, soit ils accèdent de manière clandestine, non sûre, à des avortements. En 2017, l'avortement des trois clauses, et il a eu lieu. Il a été très, très, très battu. C'était une lutte assez, assez lourde. Et les trois clauses sont donc l'inviabilité du fœtus, les risques pour la vie de la mère et un cas de viol. Et dans le cas des viols, ça va et pour les mineurs de 14 ans, pour les mineurs qui ont moins de 14 ans, jusqu'à 14 semaines de grossesse. Quand un mineur qui a plus de 14 ans, ça fera 12 semaines comme pour les autres clauses. Et ça n'est pas sans avoir une difficulté dans l'accès, car on a besoin d'un adulte responsable, que ce soit le tuteur ou les parents de la mineure. Donc c'est très difficile, c'est un parcours de combattant, et ça nous fait aussi savoir que depuis 2017 que la loi elle était promue, on a eu seulement 2000 actes d'avortement thérapeutique au Chili. D'accord, chose qui nous rend compte de la difficulté d'y accéder. Ensuite, nous arrivons à 2021, et cette année-là, qui est seulement le mois dernier, en janvier, le 14 janvier, et la Commission des femmes de la Chambre des députés a présenté un projet de loi d'une dépénalisation de l'avortement. D'accord, il faut savoir que la dépénalisation va seulement nous faire sortir du code pénal et ça ne va pas légaliser. D'accord, ce n'est pas un jeu d'avoir une légalisation de l'avortement. Et faut tenir en compte aussi qu'entre 2010 et 2020, on a eu 1800 amputés par délit d'avortement au Chili. D'accord, la majorité c'était des femmes. Ça n'a pas abouti à des condamnations, heureusement, mais quand même, il y a 1800 personnes amputées, quoi. Et autre chose aussi qui est intéressant à signaler, c'est que selon l'État, l'avortement au Chili s'est pratiqué entre 60 000 à 70 000 par an. D'accord, ça c'est les chiffres de l'État, les chiffres officiels. Or, il y a une chercheuse qui s'appelle Maite Albagli, qui est une chercheuse de l'Université du Chili. Elle estime que ça viendrait plutôt à 160 000 avortements par an. Et parmi ces avortements-là, il y aura les trois classes, ils vont représenter seulement un 3%. D'accord? Donc, bon, nous sommes dans la campagne que les trois classes ne suffisent pas. Que nous avons besoin de vraiment une dépénalisation de l'avortement et une légalisation pour plus tard. Hein. C'est quelque chose qui au Chili était assez accepté massivement d'avoir un cheminement. Et oui, bon, ça pour un peu pour le pour un peu la chronologie. Et et maintenant, bon, c'est très difficile d'avoir une approche qui ne soit pas binaire quand on parle d'avortement. Soit on parle pour, contre, légal, illégal. Mais je voulais essayer de donner une approche que ça sorte un peu de cette binarité. Ce n'est pas si évident que ça. Je me pose encore la question. Mais je voulais vous parler un peu sur les collectifs, sur les réseaux alternatifs qui sortent du système de santé. Et tout particulièrement de Con las Amigas y la Casa, un réseau d'accompagnement à des personnes en situation d'avortement. Et c'est un réseau qui se revendique à la base d'être du lesbo-féminisme. Maintenant, il se présente dans tous les territoires qui correspondent au Chili. Et ils garantissent un accès à l'information, un accès à être à l'avortement par médicaments, loin des trafics de médicaments. Et qui garantissent aussi d'avoir un avortement accompagné et chez soi. Il faut savoir que les taux de mortalité liés à des problèmes obstétriques au Chili est très bas. Et maintenant, on parle des lieux dans lesquels c'est sûr ou moins sûr. Et le Chili se situerait dans les lieux dans lesquels c'est le plus sûr. C'est-à-dire qu'on ne meurt plus à cause d'avortement. Et ce n'est pas dit que ce soit parce que l'accès à la santé a été garanti par l'État, loin de là, sinon parce que les femmes, elles avortent chez elles, avec des médocs. Il y avait des accompagnatrices qui, elles, ont garanti une prise en charge sûre. Le corps médical, par ailleurs, n'est pas formé pour faire des avortements, n'est pas en capacité de le réaliser. Voilà, donc au Chili, on avorte quand même. On a toujours avorté quand même, de toute façon. Mais maintenant, c'est grâce à des réseaux d'entraide, un réseau d'accompagnement, que l'avortement n'est plus mortel et que c'est fait de manière un peu plus sûre. Merci.
Oui, c'est grâce à nous toujours qu'on arrive à s'organiser, pas seulement pour lutter, mais aussi pour pratiquer ce que l'État ne nous permet pas. Donc, Raïssa, il va nous raconter, je suis très contente aussi, parce qu'on voulait mettre une petite chanson du Brésil, on n'aura pas le temps, mais ouais. On a Raïssa qui vient du Brésil.
Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer en à peu près 5 minutes résumer un sujet hyper difficile, mais je pense que tout le monde a déjà contribué à donner un peu l'historique, un peu le contexte des luttes. Il faut savoir que c'est une lutte intersectionnelle entre race, classe et genre, comme bien il y a dit. Et les cas brésiliens, si je peux résumer à grosso modo, c'est une dispute de narrative. C'est-à-dire, il y a une narrative d'extrême droite, facho, qui est aussi la plupart évangéliste, origine catho, et qu'il y a une pensée d'exploitation. C'est-à-dire, on exploite les corps d'autres. Et les corps féminins, bien sûr, est entendu dans ce système d'exploitation. Et de l'autre côté de la dispute des narratives, il y a aussi les mouvements progressistes et mouvements féministes. Juste pour donner un exemple vite fait, on peut donner comme exemple l'année dernière les cas d'une jeune fille enfant de 10 ans qui était violée pendant 4 ans par son oncle. Et au Brésil, on a les droits d'avortement au cas de viol et en cas de santé de la femme. Et les mouvements d'extrême droite a fait une manif contre l'avortement dans l'hôpital en empêchant que les gens entrent dans l'hôpital. Et nous, on a fait, moi je m'inclus, les gens de gauche ont fait une manif pour. Donc vous voyez que la dispute des narratives s'est faite dans cette façon qui mélange la vie publique avec la vie privée, la vie domestique avec la loi, les droits institutionnels. Et l'avortement, si on peut résumer, c'est une question qui franchement mélange tout. Mélange les droits au corps et les droits à la reproduction, la institution qu'on dit mariage, l'institution famille. Et moi, j'ai préparé je voulais juste nommer des artistes femmes qui donnent la vie pour les droits d'avortement. Par exemple, je dirais Aleta Valente, c'est une artiste de Rio. Justement, comme Elie a bien dit, les femmes riches ont le pouvoir de faire l'avortement et aussi ont le pouvoir de propager, de partager la cause. Et Aleta Valente, elle n'est pas du tout riche, mais elle a réussi à toucher les médias de Rio de Janeiro. Et elle a un travail qui s'appelle « Marque avec un X chaque avortement que tu as déjà fait ». Et ça, c'était exposé à la galerie Gentil Carioca à Rio de Janeiro. Et une autre artiste réalisatrice qui s'appelle Juliana Reis, qui a à peu près 57 ans, elle a fait un appel à dons continu pour donner l'avortement à celle qui n'a pas d'argent. Et par instant, elle a déjà fait 224 avortements avec cet appel à dons. Donc, il y a quand même des initiatives individuelles, privées, qui aident à réaliser l'avortement. Et ça, c'est Brésil, c'est un pays gigantesque, continental. Donc, ce qu'on fait, c'est OK, la loi ne nous aide pas. Donc, on fait des appels à dons privés, on fait des initiatives individuelles. Moi-même, je viens d'aider une jeune fille à Rio de Janeiro qui était toute seule à faire un avortement. Et moi, j'ai publié sur Facebook. Est-ce que quelqu'un du mouvement féministe peut l'aider? Et moi, je ne sais pas la suite parce que c'est bien de préserver aussi son identité. Et juste pour finir, je pense qu'au Brésil, la question, c'est vraiment une dispute des narratives. Et donc, pour faire un partage, pour faire un dialogue, il faut quand même dire l'avortement, c'est pas un crime, l'avortement, c'est pas un péché, l'avortement, c'est pas... C'est tout simplement le contrôle de la femme de son corps.
Oui, c'est ça qui ressort. Bon, on n'a pas beaucoup. Ah bah, Billy, il a parlé, mais il pourrait encore raconter plus. Mais quand il disait on s'organisait, on sort des sous de notre poche, on aide à des copines en Argentine aussi, et les réseaux ils se sont constitués comme ça. Et aussi, ce que tu parles. Enfin, et que vous parlez de rôle de l'Église. L'Église évangélique en Amérique latine, elle a gagné du terrain depuis les années 90 d'une façon exponentielle. Mais bon, nous, on a mis l'accent sur les papes parce que vous savez, malheureusement, ça nous concerne. Mais normalement, et on dit les églises au pluriel, justement. Et c'est comme tu dis, il y a un double discours en Argentine aussi. Il y a eu le moment qu'en plus, pour moi, les pires, c'est aussi qu'ils ont pris les foulards bleus. Les foulards, que c'était un signe de lutte en Argentine énorme. De la gauche, des disparus, et la droite, il a osé quand même reprendre le même format et ses foulards bleus. Ils ont fait des manifestations, des attaques. Il y a eu des attaques physiques aussi à les personnes, à les camarades qui portaient les foulards verts. Parce que porter les foulards verts, ce n'est pas une mode, ce n'est pas esthétique. Au début du moment, les camarades, ils souffraient dans la rue d'harcèlement, des attaques fascistes. C'est ça qu'il faut dire. Et c'était bien aussi ce qu'il est revenu du fait que les artistes se sont mobilisés. C'est pour ça qu'on a voulu passer quelques artistes qui ont contribué avec leur musique. Comme je disais, Biffet, mais on peut nommer Sarajevo, Chocolate Remix, Cumbia Queer, etc. Qui ont été physiquement dans les manifestations en faisant des concerts gratuits justement pour soutenir la lutte et de faire comme Raïssa l'a dit un contre-discours aussi, enfin, de pouvoir, c'est ça que j'essayais un peu de dire avec Pili. Quand la loi n'est pas passée la première fois, quand même les discours ils se libéraient, les femmes ils disaient oh, au moins maintenant on parle. Et les réseaux, ils disaient, nous, on va continuer à faire des avortements. Et avant, on les faisait de façon clandestine. On va continuer, mais maintenant, public, ils donnaient des numéros pour dire, venez, on vous aide. Donc, un risque, enfin, avec des risques légaux, concrets. Et moi, j'avais deux questions. Il nous reste même pas, on n'en reste pas de questions. Mais je voulais dire un gros merci. C'est dommage, un autre jour, oui. Peut-être on pourrait continuer. Un grand merci pour la traduction. Merci, Laure. Un grand merci à Elie, à Raïssa, aussi merci, à la technique. Laure. Merci la technique qui nous a beaucoup aidés. Merci à Livre Deva qui nous a laissé ces créneaux pour qu'on puisse nous exprimer et vous amener notre expérience de lutte, des informations, et essayer aussi d'amener un peu la parole du bout du monde de l'Amérique latine. Merci, à une prochaine.
Merci.
Au revoir.